Deuxième partie de notre grand reportage sur la face obscure des banques.
Hier, Isabelle Bourboulon évoquait dans son ouvrage Le Livre Noir des banques les perversions de ces dernières, mais aussi ceux qui bénéficient de ce système corrompu, à commencer par les évasions fiscales. Au fil des questions, chaque chapitre du livre se dévoile avec précision. Y a-t-il des solutions pour faire face à la loi des financeurs? Existe-t-il d'autres alternatives à ce système? Que doit-on faire, tout un chacun, pour protéger ses petites économies? Quelques pistes sont développées dans cette deuxième partie d'interview, mais dans un premier temps, Isabelle Bourboulon explique comment les co-auteurs ont œuvré afin d'élaborer cet ouvrage. Je vous propose d'écouter Isabelle Bourboulon au micro de Patrice Vernet.
En fait, on a travaillé à deux niveaux, c'est-à-dire qu'à parmi nous, il y avait donc au moins un économiste et qui a, disons, les économistes qui travaillent sur les questions financières depuis très longtemps, et puis des journalistes, et moi je suis journaliste indépendante, et les journalistes, eux, sont plus habitués à faire de l'enquête. On a croisé l'analyse économique et financière avec l'enquête de terrain. Donc ce qui nous a permis d'enrichir nos informations, parce qu'il y a des choses qui se savent en théorie économique, qui se savent très très bien, et puis par contre sur l'enquête on a pu quand même travailler sur, moi par exemple j'ai travaillé beaucoup sur la question des relations entre les banques et la justice, j'ai rencontré des magistrats, j'ai rencontré des policiers, j'ai rencontré des douaniers qui travaillent sur la finance, qui travaillent sur l'évasion fiscale, et donc on a pu croiser toutes ces informations entre la théorie économique et financière et puis l'enquête de terrain. C'est ce qui rend le bouquin en même temps très facile à lire d'une certaine mesure, parce que c'est très vivant. C'est un peu le ton de l'enquête journalistique, avec en même temps la théorie économique qui a donné un peu la solidité, la base du livre. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il se lit facilement et qu'il marche très très bien.
Votre livre pointe du doigt, bien évidemment, mais apporte-t-il aussi quelques alternatives?
Oui, on a terminé. Les derniers chapitres sont sur les pistes de ce qu'il faudrait faire s'il y avait vraiment la volonté politique de réguler le système financier. On en parle beaucoup à chaque réunion de G20. Les chefs d'État font des déclarations en disant on va réguler la finance, on va interdire les paradis fiscaux, etc. En réalité, il y a très peu de choses qui se font et il faudrait faire beaucoup plus. D'abord, il faudrait interdire les paradis fiscaux, il faudrait séparer les activités bancaires entre ce qui est banque de dépôt et de crédit et banque purement spéculative, c'est-à-dire banque d'investissement. Il faudrait en finir avec ce système de bonus des traders qui perçoivent des primes absolument colossales, avec ce système de rémunération des banquiers. Le salaire moyen d'un banquier de haut niveau, c'est 800 000 euros par an. Donc voilà, vous voyez déjà, c'est des injustices incroyables. Donc les banques attirent évidemment des jeunes qui viennent des grandes écoles avec des salaires faramineux. Quand un haut fonctionnaire est arrivé au top de ce qu'il peut espérer dans sa carrière au ministère d'économie et des finances, par exemple à Bercy, une banque va lui offrir un salaire multiplié par 20. Donc voilà, c'est trop facile, je veux dire. Tout ça, tout ce système s'auto-alimente et fait que finalement, on crée des cercles vicieux, on crée un système qui est vraiment très pernicieux et on pourrait très bien s'y attaquer. On pourrait aussi, par exemple, être beaucoup plus vigilant sur le contrôle. La traçabilité, elle existe puisque tout ça se passe par informatique. Seulement, il n'y a pas les moyens. Moi, tous les juges que j'ai vus, les magistrats, les douaniers, tout ça, ils m'ont dit « Mais nous, on n'est pas armés pour suivre tout ça, on n'a pas les moyens. » D'abord, ils ne sont pas forcément formés pour, mais en plus, ils n'ont pas les moyens de suivre toute cette délinquance financière qui rejoint d'ailleurs l'argent du crime, l'argent de la drogue. Tout ça passe là par les mêmes circuits de l'évasion fiscale. C'est exactement les mêmes circuits. Donc voilà, il y aurait énormément à faire, mais il faut la volonté politique.
Et pour monsieur tout le monde, y a-t-il une solution à part de relocaliser en fait son argent propre?
Bon, il y a quand même des gens qui dénoncent, qui agissent dans ce domaine. C'est des associations citoyennes qui travaillent sur le sujet de la finance. Il y en a plusieurs qui sont connues comme Oxfam, comme Finance Watch ou ATTAC en France, qui travaillent sur ces questions financières depuis sa création. Il y a les associations de consommateurs qui font un très gros boulot là-dessus. Quand il y a des abus, même sur des particuliers, quand un particulier a un problème avec une banque parce que sa banque lui a prélevé des frais de façon injustifiée, ce qui arrive fréquemment, il peut aller voir une association de consommateurs qui va engager une poursuite, qui va faire une procédure, etc. Donc il y a des moyens de se défendre. Alors maintenant, pour changer le système, alors là par contre, c'est évidemment, ça paraît beaucoup plus compliqué, mais il faut faire pression, il faut s'informer. Et il faut faire pression, il y a des tas d'associations citoyennes où on peut participer et petit à petit voilà, dénoncer le système et faire en sorte que petit à petit des mesures soient prises. On en parle de plus en plus quand même aujourd'hui. Il faut dire qu'on est aidé par ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, hein, les gens qui, souvent des anciens salariés des banques, qui à un moment donné ont eu un conflit moral ou éthique, personnel, qui se sont dit, moi je ne peux pas continuer à couvrir des abus pareils et qui révèlent des scandales. Et bien grâce à eux, on apprend comme ça qu'il y a des abus, des fraudes colossales sur des montants gigantesques, souvent, des grandes banques. Et puis après, les journalistes font leur boulot, ça se sait, etc. Et puis petit à petit, bon, les États peuvent arriver à récupérer de l'argent des fraudeurs en négociant directement avec eux. C'est ce qui se fait en France avec le ministère de l'économie. Donc voyez, il y a des moyens quand même, on peut faire des choses. Mais il faudrait prendre des mesures un peu énergiques. Malheureusement, on n'en est pas là.
Beaucoup de monde ce soir donc à La Réunion, c'est toujours comme ça ?
Toujours, ah, toujours. Je dois dire que je suis vraiment étonnée parce que moi j'anime au moins 2 ou 3 soirées par semaine en ce moment pour le livre et je suis, même quand on est dans des petites salles, c'est bourré avec pas assez de chaises pour asseoir tout le monde ou même des grandes salles, elles sont pleines. Je veux dire, les gens s'intéressent au sujet et pourtant c'est pas facile, c'est pas un sujet vraiment marrant, mais les gens ont envie de comprendre comment fonctionne cette fameuse finance dont on nous dit qu'elle est responsable de la situation où on est aujourd'hui. C'est vrai, le chômage, la crise économique, les licenciements massifs auxquels on assiste tous les jours en ce moment, c'est la finance qui est responsable. Et donc, voilà, une fois qu'on a compris ça, on a envie de comprendre pourquoi. Et finalement, les liens, ils existent très directement.
Une lueur d'espoir, donc ?
Oui, bah oui, parce que je pense que plus les gens seront informés, plus ils seront en moyen quand même déjà de ne pas se laisser faire à titre individuel par leur banque. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut aller voir son conseiller bancaire, il faut protester. Si on voit qu'on a été prélevé de façon indue, il ne faut pas se laisser faire. Donc voilà, déjà à titre individuel. Et puis en même temps, plus les gens seront informés, plus les gens seront au courant et plus on sera nombreux à vouloir agir dans ce domaine et plus on arrivera à faire quelque chose, bien sûr.